Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à Station Ozone pour une conversation avec François Reinhardt et son dernier livre « Voyage en Europe » de Charlemagne à nos jours, qui est paru aux éditions Fayard. Donc, d'emblée, je le précise, vous êtes tous venus pour François Reinhardt, naturellement. Mais enfin, s'il y en a qui étaient venus pour écouter Julien Rousset poser des questions, je suis navré, je ne suis pas Julien Rousset, qui a été appelé sur un reportage de dernière minute. C'est ce qui arrive quand on est journaliste. C'est pas François Reinhardt qui me dira le contraire. Et donc, je le remplace au pied levé. Et François Reinhardt a bien daigné accepter que je le remplace alors que je n'étais pas prévu. Donc voilà, tout va bien se passer.
J'ai confiance dans vos questions.
Bon, c'est parfait, formidable. D'autant plus que c'est Julien Rousset qui les a écrites pour la plupart. J'en ai quelques-unes aussi, quand même. Vous en faites pas. Bah, François Reinhardt, bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Donc, on va préciser, vous êtes journaliste et chroniqueur au Nouvel Observateur. Vous êtes également écrivain, passionné d'histoire. Hein. Vous avez écrit plusieurs livres d'histoire. Alors, à chaque fois. Évidemment, parfaitement documenté, c'est quand même le minimum quand on publie un livre d'histoire, mais toujours avec un ton qui essaie de, voilà, d'être plus attractif, décalé, d'être plus ludique pour faire livre des livres d'histoire, ce qui n'est pas toujours évident quand c'est trop universitaire. Où on peut dire que c'est pas du tout universitaire, c'est vraiment le but que vous recherchez dans ces livres d'histoire. Donc ce livre, Voyage en Europe, sort alors que l'Europe est évidemment au cœur de nos préoccupations, peut-être pas seulement à cause des élections européennes qui vont se dérouler. C'était un timing voulu, justement, de publier un livre sur l'Europe cette année-là, en 2019.
Ah bah, disons que... Alors, bonjour à tous, d'abord. Disons que j'avais, pour ce projet avec Fayard, de dire... Dans les livres d'histoire que j'ai fait une histoire de France, un autre les Gaulois, autre falaise, ensuite une histoire du monde arabo-musulman, après une histoire du monde. Et chez Fayard, je disais, moi, j'aimerais bien faire une histoire de l'Europe, parce que ça m'intéresse, c'est de trouver un moyen de raconter l'histoire de l'Europe. Et évidemment, Sophie de Closet, la patronne de Fayard, qui est une bonne éditrice, elle dit, je veux bien que tu fasses un livre d'histoire de l'Europe, mais il faut qu'il sorte avant les élections. Donc voilà, enfin, cela dit, je ne parle pas des élections là-dedans. Hein.
Oui. Charlemagne,
il y a peu à voir avec Charlemagne n'est pas tête de liste, je tiens à le préciser.
Ça, absolument.
Donc voilà, et ce que je voulais faire, en tout cas, l'idée qu'il y a derrière ce projet-là, c'est de dire, il y a une histoire européenne, il existe une histoire européenne. On a tous appris l'histoire, tous les gens qui sont dans cette salle, on a appris l'histoire et on a une structure de l'histoire dans notre tête qui est très franco-française, parce qu'on l'a apprise comme ça. Et la structure qu'on a tous dans la tête, à peu près, c'est qu'on sait tous que, même sans avoir le détail, sans être spécialiste d'histoire, on a tous l'idée comme ça qu'il y a loin, il y avait les Gaulois, puis après il y a le Moyen-Âge, des châteaux, des Jeanne d'Arc, etc. Enfin, ou en tout cas des châteaux, des rois, des chevaliers, etc. Ensuite, il y a la Renaissance, les grands rois. Ensuite, les Lumières, la Révolution française, la Révolution industrielle, la guerre de 14. Tout ça, c'est la grammaire qu'on a dans la tête et on l'associe à l'histoire de France. Mais un Allemand, il a la même grammaire dans la tête. Un Allemand, il a la même chose. Il voit, lui aussi, il y a eu une partie de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, qui était l'Empire romain, avec des populations qui étaient des Germains. Lui aussi, il a les châteaux, les princesses, etc. Lui aussi, il a, etc., la Révolution industrielle, la guerre de 14. Voilà, un Anglais, un Espagnol, un Néerlandais, un Italien, ils ont la même grammaire dans la tête. Un Chinois, il ne l'a pas. Pour un Chinois, le Moyen-Âge, ça ne veut rien dire, parce que ce qu'on appelle, nous, le Moyen-Âge, qu'on vit comme une époque dégradée, barbare, archaïque, etc., ce que détestent les médiévistes, on la voit comme ça. Pour un Chinois, c'est le contraire, parce qu'un Chinois, c'était l'âge d'or, c'est la Chine au centre du monde, la Chine qui a toutes les découvertes, etc. Un Arabe, il n'a pas celle-là. Quelqu'un du continent américain, quel qu'il soit, il n'a pas cette grammaire-là dans la tête. Un Aztèque, ça n'a pas de sens pour lui. Bon, et donc, il y a une histoire européenne, et je me suis dit, je vais raconter cette histoire européenne. Et comme vous disiez tout à l'heure, que dans les livres que je fais, effectivement, j'essaie de les rendre attractifs, je cherchais un moyen de raconter cette histoire européenne. Il y a des histoires de l'Europe qui existent, il y a des histoires de l'Europe faites par des grands universitaires, qui sont de très bons livres, mais l'universitaire, le drame de l'universitaire pour le grand public, c'est qu'il essaie d'être exhaustif. Donc vous lisez une histoire de l'Europe, et souvent, vous êtes complètement paumé parce qu'en même temps, il y a un roi d'Espagne qui fait ça, en même temps, il y a une guerre aux Pays-Bas, en même temps, il y a le roi de Suède qui voit. Donc, je cherchais un moyen de raconter ce que je vous disais, être cette grammaire européenne, cette grammaire historique qu'on a tous dans la tête, hein, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Et chercher un moyen de le raconter, une pédagogie pour le raconter. Et là, je trouvais que les villes, les étapes, le voyage, c'était une bonne manière de procéder. C'est-à-dire que si je vous dis à tous, Je vais vous raconter l'histoire de la République tchèque, par exemple. Je pense qu'il y en a deux, trois qui vont sommeiller. Il y a des gens qui vont commencer à partir en disant on va être paumé, on va rien comprendre, les noms de ministres tchèques, on va être paumé, même si c'est passionnant, l'histoire tchèque. Si je vous dis, je vous emmène à Prague et je vais vous raconter Prague, eh bien, à Prague, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez venir avec moi à Prague? Je vais vous emmener, on va aller, le plus célèbre pont de Prague, c'est le pont Charles. Le pont Charles, il s'appelle le pont Charles parce que c'était le grand empereur hein, au Moyen-Âge, il y avait le Saint-Empire romain germanique. L'empereur Charles de Luxembourg, c'était c'est un empereur qui avait décidé que sa cathédrale était à Prague, et sa capitale, pardon, était à Prague, et il a fait ce pont. Au-dessus du pont, il y a le château de Prague. Le château de Prague, c'est absolument magnifique, hein, c'est ce qu'on visite toujours quand on va à Prague. Et dans ce château de Prague, il y a un événement énorme de l'histoire de l'Europe qui a commencé hein, en 1618, au XVIIe siècle. Dans ce château de Prague, il y a des nobles protestants et des nobles catholiques qui se sont engueulés, disons, et les protestants ont passé les catholiques par la fenêtre. On appelle ça la défenestration de Prague. Et ça a commencé l'équivalent dans le monde germanique des guerres de religion chez nous. Hein. La guerre de 30 ans, c'est la même chose. C'est les catholiques et les protestants qui se battent. C'est énorme. C'était la guerre la plus dévastatrice en Europe avant la guerre de 14. Ou bien, bien plus tard, au 18e siècle, quand on va à Prague aussi, on visite un quartier qui est le quartier de Joseph, le quartier de parce que l'empereur Joseph, ça c'était le quartier juif, c'est là où il y a le cimetière juif hein, rendu célèbre par Umberto Eco, etc. Et ça c'est ce quartier qui était un quartier juif, qui était un quartier où les juifs étaient tenus dans un ghetto, etc. Et cet empereur Joseph au 18e siècle, c'est un homme des Lumières, lui c'était l'émancipation, etc. Donc il a fait que les juifs pouvaient être plus libres, etc. Donc voilà. Donc à travers la visite à Prague, je vais vous raconter d'autres choses sur l'histoire de l'Europe.
Vous-même, pour écrire ce livre, justement, enfin, je suppose qu'il y avait des villes que vous connaissiez déjà, mais vous avez fait vous-même le voyage, c'est-à-dire que vous êtes allé sur place.
Non seulement je l'ai fait, mais avec grand bonheur, parce que c'était Fayard qui payait.
Non, ah, ben en plus, alors,
non, ça, non, mais génial, je plaisante un peu, mais c'est vrai que c'est un bon éditeur, donc par ailleurs, j'ai eu des frais pour faire ça.
C'était vos conditions, vous avez dit OK,
mais je vais partout. Et je suis même allé à Provins, à côté de Paris, donc voilà. Je suis pas venu à Bordeaux, c'est dommage, j'aurais dû. Mais parce qu'il y a 20 étapes, donc ces 20 étapes devaient commencer par une ville symbolique à chaque fois, et j'ai pas trouvé le moyen de mettre Bordeaux là-dedans, qui est pourtant une ville absolument magnifique. Je me suis encore promis cet après-midi, et vraiment, c'était
oui, puis sur le plan historique, quand même, il s'est passé des choses pendant les deux guerres et les deux grandes guerres.
C'est vrai, c'est vrai. Le gouvernement qui était
vous reviendrez pour la réédition
quand je fais le 20e siècle. Donc, effectivement, je suis allé partout, mais il y a d'autres villes que je connaissais, comme vous disiez.
Vous avez dit vous-même, vous avez prononcé le mot de franco-française, donc on a une vision franco-française, ce qui est un peu normal, parce que c'est un peu normal que les Français connaissent d'abord l'histoire de leur pays. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais ça on peut le dire pour tous les autres pays. Je suppose qu'en Angleterre, vous en avez parlé, en Italie, au Japon, en Chine, etc. On apprend d'abord l'histoire de son pays, donc on a une vision quand même assez, j'allais dire chauvine, mais c'est pas péjoratif, mais de son pays quand même, avant de s'intéresser à l'histoire des autres pays.
Oui, bien sûr, mais sauf que cette histoire nationale, l'histoire française telle qu'on l'a appris avec ce découpage-là, et cette histoire nationale, elle a été très largement réécrite au 19e siècle. Hein. Le 19e siècle, c'est le 19e siècle, c'est le siècle où sont créées les nations en Europe. Hein, il y a la nation, on vit tout le temps dans l'idée qu'on est dans un État-nation, ce qui est vrai, mais ce sont l'État-nation, ce qu'est la France aujourd'hui, ce sont deux organisations très récentes. L'État, il a été organisé en France, comme dans le reste de l'Europe d'ailleurs, dans la plupart des autres pays d'Europe, au 16e siècle à peu près. L'État, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a un roi ou un pouvoir qui a pouvoir sur un territoire. C'est-à-dire que c'est François Ier qui est le symbole de ça, hein, dans l'histoire de France. François Ier, c'est le premier qui dispose d'une justice sur tout le territoire. C'est le premier qui dispose qu'il y avait une armée. Enfin, ça existait depuis un petit peu auparavant, mais en tout cas, il a une armée, il a une justice. Et lui, il estime que tout le territoire est à lui. C'est lui le fondateur de l'État. Au Moyen Âge, avant ça, les rois, ils avaient très peu de pouvoir. La plupart des rois, alors ils ont réussi à gagner un petit peu de pouvoir un peu à la fois, mais l'âge féodal qui précédait, c'était un âge sans État. L'âge féodal, il n'y a pas d'État qui existe. Il y a des seigneurs qui contrôlent leur seigneurie, et ces seigneurs sont les vassaux d'un suzerain plus grand, qui sont les vassaux d'un suzerain plus grand. C'est une pyramide féodale, il n'y a pas un État, d'accord? Et ensuite, au 18e siècle, il y a cette autre chose qui arrive, cette autre notion qui arrive, qui est la notion de nation. La nation, c'est quoi? Dans le mot nation, il est lié au mot latin naître, hein, nascere. Mmh. Et ça veut dire, c'est les gens qui sont nés à un endroit, qui prennent le pouvoir, qui décident que le pouvoir est à eux et que le pouvoir va émaner d'eux. D'où ça arrive, cette idée de nation? La première expression politique de la nation, c'est la révolution américaine. C'est un truc européen, mais qui est fait hors d'Europe. Oui. Hein, la révolution américaine, c'est les colons anglais qui sont aux États, enfin ce qu'on appelle les États-Unis, oui, qui s'appelait à l'époque les colonies d'Amérique.
Qui sera les futurs États-Unis.
Voilà, mmh. C'est dans les années 1770, c'est ces colons anglais qui en ont marre de payer des impôts à l'Angleterre et de pas avoir de députés au Parlement anglais, et donc ils décident de se rendre indépendants, et ils font cette déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, hein, la fête nationale américaine. Cette déclaration d'indépendance, elle commence en disant au nom de We the People of America, nous le peuple d'Amérique. Et ben ça, c'est ça la première expression politique de la nation dans le monde moderne. C'est-à-dire, c'est un peuple tout entier qui dit on prend le pouvoir est à nous. C'est les Américains qui ont inventé ça et qui en sont très fiers d'ailleurs.
Alors qu'on croit que nous, les Français, on croit que c'est nous.
Ben, bien sûr, inventé, mais parce que oui. Les Français, on croit toujours qu'on a toujours tout inventé.
Mais on est arrivé pas très longtemps après.
Et alors, effectivement, peu de temps après, il y a la même chose qui s'est passée en France avec la Révolution de 1789. La Révolution de 1789, elle invente la nation. Là, dans le chapitre, il y a un passage qui se passe à Versailles, parce que ça s'est inventé à Versailles. Quand Louis XVI convoque les États généraux au printemps 1789, hein, il convoque les États généraux. Les États généraux, c'est une vieille pratique qui remonte au Moyen Âge, qui consiste à quand le roi ne sait plus quoi faire pour faire des réformes et quand le roi ne sait plus quoi faire pour lever des impôts, parce que les caisses étaient vides, le pays était très endetté. Donc, il convoque les États généraux, c'est-à-dire qu'il demande à tous les représentants de non pas son peuple, mais ses peuples. Louis XVI parlait à ses peuples. Il convoque tous ses peuples. Et les États généraux, hein, comme on l'a tous appris à l'école pour le coup, ils arrivent à Versailles et le premier et ils sont réunis par ordre. C'est-à-dire, hein, il y a le premier ordre qui est le clergé, le deuxième ordre qui est la noblesse, et le troisième ordre, le plus nombreux, qui est le tiers-état. Donc, ce n'est pas une nation. Il n'y a pas la nation française qui est réunie, puisqu'il n'y a pas d'unité. Il y a, pour Louis XVI, la représentation mentale de Louis XVI, en 1789, c'est qu'il y a des peuples, c'est-à-dire le Languedoc, la Gironde, enfin, ce qui s'appelait pas la Gironde, d'ailleurs, la Guyenne, voilà, les Flamands, etc. Tout ça fait ces peuples, et ces peuples sont partagés en trois ordres qui ne sont pas égaux. Et là, dans ce printemps 1789, il y a des gens du tiers-état en particulier, Mirabeau, etc., qui disent « mais c'est absolument scandaleux cette division en ordre, il faut qu'on soit tous réunis, hein. Il ne faut pas qu'on vote en ordre séparé, il faut que tout le monde vote ensemble ». Et donc c'est là où il y a le coup de force, le coup de force de juin 1789, le coup de force, hein, les gens ces députés du tiers-état qui se réunissent au jeu de paume, la salle du jeu de paume qu'on visite encore à Versailles, qui était la salle de tennis de l'époque, hein, le jeu de paume c'est le tennis, enfin c'est l'ancêtre du tennis, qui se réunissent là et qui disent « désormais le pouvoir nous appartient, ils forment une nation ». La nation, elle a été inventée à ce moment-là. Et ensuite, donc, la France est devenue, en juin 1789, un État-nation. Il y avait l'État qui avait été formé avant. Hein. Il y avait un territoire qui était contrôlé par une police, une armée, une justice, etc. Et puis, par ailleurs, là-dedans, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Ça, c'est l'État-nation, mais c'est créé en 1789. L'État, 16e siècle, la nation, 1789. Et ensuite, ce modèle-là, il s'est exporté dans tous les pays européens. Tous les pays européens sont devenus, les uns après les autres, des nations. Mais c'est très récent, ça. Mmh. Et quand ces pays européens sont devenus des nations, hein, quand l'Allemagne, en Allemagne, c'était un vieil empire, le vieil empire romain germanique. Et là, de la même manière, il y a eu des tas de révolutions pendant tout le 19e siècle pour faire l'unité de l'Allemagne et que ça devienne une nation allemande. Pareil en Italie, etc. Tous les pays qui sont devenus des nations, ils ont tous à ce moment-là eu un grand travail qui est de réécrire leur histoire. L'histoire a été réécrite et toute l'histoire a été réécrite de manière nationale. Par exemple, nous, à l'école, on a tous appris l'histoire de France. Les guerres du Moyen-Âge, on les a relues comme des guerres nationales. La guerre de Cent Ans, par exemple. Hein, la guerre de Cent Ans, qui est très importante à Bordeaux, la guerre de Cent Ans, on l'a apprise comme une espèce de guerre de 14, mais qui opposait pas les Français et les Allemands, mais qui opposait les Anglais et les Français. Ça n'a aucun sens. Oui. La guerre de Cent Ans, c'est une guerre féodale. Ça veut dire c'est des familles princières, des oui. familles nobles qui se disputent entre eux.
Vous rappelez, Richard Cœur de Lion ne parlait pas anglais.
Voilà.
Il était roi d'Angleterre, mais enfin bon, c'était les enchaînements qui faisaient ça. Mais enfin, il était, il parlait français, enfin français.
Richard Cœur de Lion, il parlait l'occitan.
Il parlait l'occitan. Hein, il était pas du tout anglais. Il était roi d'Angleterre,
parce que pendant tout le Moyen Âge, donc il n'y avait pas ce système national. Il y avait des gens J'imagine, enfin, peut-être que parmi vous, il y a de grands aristocrates, moi pas en tout cas. Donc, probablement, mes aïeux, c'était juste les pauvres paysans du village qui binaient la terre, ou je sais pas où ils étaient d'ailleurs.
Et votre par ailleurs, nom, ils n'étaient pas ici.
Non, c'est sûr, ils n'étaient pas en Belgique, enfin, dans l'actuelle Belgique. Et par ailleurs, au-dessus de ça, une noblesse, hein, au Moyen-Âge, des nobles qui se disputaient les terres, mais qui se disputaient les terres pas du tout de manière nationale. Je t'ai donné le Trump de machin, je t'ai donné la Guyenne, tu vas me redonner la Bavière, je t'ai donné, etc. Et donc, effectivement, Richard Cœur de Lyon, qui était dans la réalité, qui était le fils d'Aliénor d'Aquitaine, qui était élevé en occitan, hein, il parlait l'occitan, Richard Cœur de Lyon, son lieu son lieu préféré, c'était le Poitou. Il était lié au roi de France Philippe Auguste. Il y a même des historiens qui disent que c'était amant. Alors ça, je peux pas, difficile à vérifier, hein, je peux pas voir les archives, mais enfin, parce que tout ça, c'était un petit monde, ils se connaissaient tous entre eux. Et il est allé souvent aux croisades, etc. Et dans toute sa vie, il a été roi d'Angleterre, mais il a été 6 mois en Angleterre. Et quand au 19e siècle, je reviens à ce que je disais, quand au 19e siècle, un écrivain comme Walter Scott, par exemple, qui est un des hommes qui crée justement la légende nationale en Angleterre, et bien celui-là, il refait de Richard Cœur de Lyon un Anglais, un véritable Anglais. Oui, fait, on a l'impression qu'il boit du thé, qu'il lit le Times.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas du tout le cas. Alors, avant de évidemment, on va pas faire les 20 étapes de votre livre, chacun pourra l'acheter et le lire chez lui tranquillement. On va en faire quelques-unes, mais avant qu'on commence, est-ce que, là je m'adresse autant aux journalistes qu'à l'historien, est-ce que ce livre c'est aussi à l'avance une façon de répondre maintenant à tout ce qui se dit sur l'Europe, pour employer le mot anglais, les fake news? Je pense notamment, il y a ce livre qui vient de sortir de Philippe de Villiers, qui fait grand bruit parce qu'il dit clairement, carrément, que l'Europe a été créée par les Américains pour servir de
Alors, franchement, là, je voudrais modérer mes mots, mais c'est un livre abject. Oui. C'est un livre abject. C'est scandaleux. C'est-à-dire que Philippe de Villiers, non seulement... Alors, il dit que l'Europe a été créée par les Américains. Ça, c'est partiellement vrai.
Oui, c'est vrai. Hein, oui.
Dans les années 45-50, les États-Unis étaient obsédés à l'idée de la menace soviétique. Et je suis bien content, n'en déplaise à Philippe de Villiers, qui nous ait protégé de la menace soviétique, parce que je suis bien content d'avoir été élevé en France et de ne pas avoir été élevé en Pologne communiste, hein, où j'ai tout le respect pour les Polonais, mais c'est pour ça que je compatis au malheur qu'ils ont subi. Donc, il dit ça, mais il dit pire que ça. Il dit que l'Europe a été créée par des nazis et des pétainistes.
Oui.
C'est hallucinant. L'Union européenne, elle a été faite par des gens qui se sont battus contre le nazisme. Le mouvement européen, après la guerre, il était coprésidé par Léon Blum et par Winston Churchill. C'est des nazis, ça? L'Europe, ça a été pensé par des gens magnifiques comme Simone Veil. Simone Veil, elle a pensé l'Europe quand elle sortait d'Auschwitz, parce qu'elle a dit: je sors d'Auschwitz et je veux plus jamais qu'il y ait Auschwitz pour personne. Excusez-moi, je m'énerve, mais ça me rend dingue.
Parce que
penser qu'aujourd'hui en France, on en est à devoir dire que l'Europe n'a pas été faite par les nazis, mais on vit dans un monde de délire. C'est pas possible, quoi.
Je vais me gâcher
ma soirée.
On va pas parler de Philippe de Villiers, mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de livre, voilà, est aussi une façon, à l'avance, sans que vous ne saviez pas que Philippe de Villiers allait publier
un livre. Non.
Mais c'est aussi une façon de rétablir la vérité, même s'il n'est pas forcément question de la création de l'Union européenne, ça remonte bien avant. Mais enfin, en tout cas, voilà, il est question de la création de l'Europe.
Effectivement. Alors, je tais mon énervement, parce que franchement, mais je suis en colère depuis la semaine dernière, parce que, encore une fois, je vous dis, je pensais pas qu'un jour on aurait à justifier de trucs pareils. C'est délirant, quoi.
Ouais.
Qu'on dise l'Europe, ça marche pas, l'Europe, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Ou l'Europe comme elle est.
Ça, c'est
tout à fait normal.
C'est de l'argumentation politique.
Voilà, tout à fait. Et après, dans cette salle-là, il y a des gens de droite, des gens de gauche, des écolos, des pas écolos, tout ça, on n'est pas d'accord. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'il y a des faits. Enfin, c'est bon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, il y a un truc qui est très vrai chez les gens qui sont grosso modo eurosceptiques ou anti-européens, etc., ou qui sont souverainistes, c'est qu'ils ont dans la tête une représentation historique qui consiste à dire: la France a 2000 ans d'histoire seule, et aujourd'hui, enfin depuis les années 50, elle est obligée de se lier à d'autres pays qui lui sont totalement étrangers. Et effectivement, j'ai fait un livre que j'essaie de faire le plus simple et le plus pédagogique pareil, et qui n'est établi que sur des faits historiques, en disant non, on peut voir les choses autrement. Il y a eu depuis des siècles une histoire européenne Hein, le Moyen-Âge, là, dans ce livre, le Moyen-Âge, il est européen. Le personnage important du Moyen-Âge, c'est le pape. Le pape, il est européen. On appelait ça la chrétienté à l'époque, mais ça revient, ça revient au même territoire. Hein. Il n'y avait pas de nation, etc. Et la nation, elle est arrivée bien plus tard, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, l'Europe, après tout, l'Union européenne ne fait que reprendre une forme qui existait jadis. Alors après, effectivement, on peut très bien ne pas être d'accord sur la façon dont elle fonctionne. Ça, c'est ça,
oui,
on
oui, mais d'accord. Ça, c'est chose,
mais c'est un autre débat.
Après, ça,
mais en tout cas, ce que je pense tout à fait que tous les pays qui sont dans l'Union européenne, ils ont très largement une histoire qui est commune. Et je vous le dis, c'est une évidence quand on la pose, mais en tout cas moi qui m'a sauté aux yeux quand j'ai écrit le livre précédent qui était La Grande Histoire du Monde, parce que ça, quand on voyage en Chine, au Japon, etc., on voit évidemment qu'il y a une histoire européenne, c'est une évidence. C'est de les Chinois, les Américains, quand ils parlent, ils disent jamais la France ou la, enfin, sauf quand ils en parlent spécifiquement, mais sinon ils disent toujours Europe. Ouais, c'est toujours, il y a toujours un même ensemble avec des gens qui pensent pareil, avec des gens qui font voilà.
Kissinger disait quel numéro de téléphone.
Oui, ça c'était
ça c'est autre chose. Alors on va faire un bond très loin en arrière dans le temps pour arriver quand même à un des, si je puis dire, vous allez me corriger peut-être, un des pères fondateurs de l'Europe, même si c'est pas l'Europe telle qu'on la connaît, mais l'an 800, Charlemagne, on n'est pas sûr qu'il ait inventé l'école, mais selon vous, l'Europe de Charlemagne, c'est déjà un peu la préfiguration de notre Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Alors, je pense complètement, parce que très généralement, quand on lit des histoires européennes, elles commencent peut-être quelquefois à la Grèce et surtout à l'Empire romain. Et alors, l'Empire romain, évidemment, l'Europe dans laquelle on habite, elle est l'héritière de l'Empire romain. Hein, si en France, il y a un Sénat, c'est une référence au Sénat de l'Empire romain. Le latin a longtemps été la langue dominante, etc. Donc, bien sûr, l'Empire romain, on en est l'héritier. Mais, sauf que, quand on fait ça, on fait un peu une captation d'héritage. Parce que l'Empire romain, c'est pas seulement l'Europe. Si vous prenez une carte de l'Empire romain, hein, c'est dommage que j'aurais demandé une carte, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'Empire romain, c'est un empire méditerranéen. C'est-à-dire que l'obsession romaine, c'est pas du tout de faire l'Europe, c'est de faire l'union de la Méditerranée. Hein, les Romains, ils se sont battus contre Carthage, qui est en Tunisie, c'était le rival pour contrôler la Méditerranée. Ils ont battu Carthage, et ensuite, ils ont fait tout le tour de la Méditerranée.
Ce qui les a pas empêchés de pousser vers l'Allemagne, enfin, ce qui s'appelait la Germanie.
C'est sûr, bien sûr. Mais parce qu'ils voulaient asseoir leurs arrières, mais et équilibrer leur empire. Mais les provinces les plus importantes dans la tête d'un empereur romain, les provinces les plus importantes, c'est l'Égypte qui était incroyable, qui était une puissante province romaine, et ce qu'on appelait Africa, c'est la Tunisie, l'Afrique du Nord.
C'est ça. Hein,
ça c'était les parce qu'elles sont très proches de Rome en fait. Quand vous regardez une carte, l'Italie, bon, et par
et
exemple,
Carthage, hein, quoi, à l'époque aussi,
le Carthage détruite par les Romains, puis rebâtie par les Romains, et par exemple, hein, un des immenses empereurs romains qui est l'empereur Constantin, celui qui est resté très célèbre parce que on est à peu près vers 300 après Jésus-Christ, parce que c'est celui qui a autorisé le christianisme dans l'empire. L'empereur Constantin, il dit l'empire est trop grand, il faut lui donner une autre capitale. Et bien, quand il choisit une autre capitale, il y a Rome, il s'installe pas à Londres ou il s'installe pas dans les Pays-Bas, il fait son autre capitale à Constantinople, c'est la ville qu'il a créée qui porte son nom, hein, qui est Istanbul. C'est-à-dire que l'empire romain, pour Constantin, ce qui est important, c'est ce côté-là, c'est le côté oriental. Donc, en tout cas, il y a tout ce domaine qui est un domaine méditerranéen, d'accord, dans lequel notre petite Europe est, mais qui est juste une partie de tout le reste. Et puis ensuite, hein, ensuite, il y a au 5e siècle, il y a ce qu'on appelle les invasions barbares, c'est-à-dire la pression des tribus germaniques qui arrivent et qui investissent tout ce qui est aujourd'hui l'Europe occidentale et l'Afrique du Nord, hein, qui s'installent un peu partout. Les Francs dans la France du Nord, les Visigoths en Espagne, les Vandales en Afrique du Nord, etc. Et de l'autre côté, il y a un monde oriental qui devient ce qu'on appellera l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, avec sa capitale de Constantinople, qui reste un monde latin. Donc déjà, il y a cette division-là qui se passe 5e siècle, 6e siècle. Et puis ensuite, il y a une autre division qui arrive un peu plus tard. Il y a une autre division de ce grand monde méditerranéen de départ, qui est les invasions arabes. Les invasions arabes, elles commencent après la mort de Mahomet. Hein, il est mort en 632. Et après ça, les Arabes commencent à faire leurs conquêtes et vont avancer et vont conquérir toute l'Égypte, l'Afrique du Nord, une partie de l'Espagne. Et donc là, à la fin du 8e siècle, c'est-à-dire vers 790, là, il y a un ensemble géographique qui ressemble à l'Europe occidentale. Hein, parce qu'au sud, il y a les Arabes. À l'est, dans le monde oriental, il y a l'Empire byzantin, l'Empire romain. Donc, il reste un ensemble-là. Mmh. Et dans cet ensemble-là, il y a deux personnages qui sont très importants dans cet ensemble-là. Il y a un personnage qui est l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, qu'on commence à appeler le pape. C'est une appellation de courtoisie, enfin de affective. Hein, ça veut dire le père, il papa. Hein. Mais celui-là, dans le monde chrétien de départ, c'était qu'un personnage parmi d'autres. Les grands noms du christianisme originel, du christianisme des premiers siècles, c'est le patriarche de Constantinople, c'est le patriarche d'Alexandrie, c'est le patriarche de Jérusalem. Le pape, c'est un de ceux-là. C'est le patriarche de Rome, c'est un parmi ceux-là. Et celui-là, à cause de ce que je viens de raconter, il est isolé. Donc il lui faut une alliance. Et il va faire une alliance politique avec un roi qui est le roi le plus important de l'Europe occidentale à ce moment-là, qui est donc, il y a d'abord Pépin le Bref, hein, un Carolingien, qui est le père de Charlemagne, et puis ensuite avec le fils de Pépin le Bref, un pape suivant, avec le fils de Pépin le Bref, avec le roi Charles. Mmh. Et voilà, et donc effectivement...
Carolus Magnus,
donc le pape, le pape l'évêque de Rome, en l'an 800, il fait venir le roi Charles, qui est le roi des Francs, il le fait venir à Rome, et il lui pose une couronne sur la tête en disant « Je te refais empereur des Romains ». Il fait un nouvel empire romain, mais un empire romain qui est beaucoup plus petit.
Je croyais qu'il avait été sacré à Aix-la-Chapelle, justement. C'est aussi l'idée, les souvenirs peut-être que j'avais, mais...
Il a été couronné empereur à Rome, puis ensuite... à la suite de Charlemagne. Donc, c'est ces deux personnages-là qui, à mon avis, fondent l'Europe. Oui. Et effectivement, en tout cas, ce qui est très important et qui est une caractéristique de l'histoire européenne, c'est que, donc, il y a le pouvoir religieux qui est le patriarche de Rome qui a mis la couronne sur la tête de Charlemagne. Et ce que nous dit le biographe de Charlemagne, c'est que Charlemagne était furieux de ça. Il était furieux parce que lui, c'était le roi des Francs et il voulait être nommé empereur à la manière des Francs, comme Clovis portait sur un pavois. Oui. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est par acclamation populaire. Donc que ce soit le pape qui lui a mis la couronne sur la tête, pour lui, ça allait pas parce que le pouvoir devait venir du peuple. Et donc, ça a créé cette rivalité dès le départ entre le pouvoir temporel, qui est le pouvoir de l'empereur, et le pouvoir spirituel, qui est le pouvoir du pape. Et effectivement, le nouvel empereur Charlemagne, il ne va pas s'installer à Rome, mais il va revenir dans sa capitale qui est Aix-la-Chapelle. Et ben, le fait qu'il y ait le pouvoir temporel à Aix-la-Chapelle et qu'il y ait le pouvoir spirituel à Rome, ça, c'est quelque chose qui est essentiel à l'histoire de l'Europe, parce que ça veut dire qu'on a toujours, de ce moment-là, divisé le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. C'est de là, des siècles plus tard, que vient la laïcité, en fait.
C'est-à-dire que ça vient de Charlemagne.
Parce qu'à la suite de ça, pendant tout le Moyen-Âge, toute l'histoire du Moyen-Âge, c'est les empereurs, hein, ce qu'on appelle les empereurs du Saint-Empire romain, ceux qui sont à Aix-la-Chapelle, etc., qui sont les lointains successeurs de Charlemagne, qui, dans nos têtes, à nous, c'est les empereurs d'Allemagne, si vous voulez. Ce n'est pas les empereurs d'Allemagne, l'Empire romain germanique était énorme.
Ça n'existe pas à l'époque.
Et en tout cas, tout cela se sont toujours disputés avec les papes. Ils passent leur temps, les papes excommunient l'empereur dépose le pape, etc. Ils passent leur temps à disputer. Puis ensuite, à partir du 13e, 14e siècle, à l'époque, c'est les rois de France qui deviennent les plus puissants personnages, là, Philippe le Bel, tout ça. Et Philippe le Bel, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à disputer avec les papes. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette opposition entre le temporel et le spirituel, largement parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Moi, il me semble évident que la laïcité, très lointainement après, elle est née de ça.
Alors justement, ça m'amène à une question qui est essentielle et qui fait toujours l'objet, encore aujourd'hui, de débats politiques, historiques, etc. C'est sur les racines chrétiennes de l'Europe. Est-ce que l'Europe, on peut dire qu'elle a des racines chrétiennes, a priori, comme ça, on a envie de dire oui, parce que, d'ailleurs, vous le dites vous-même, il y a des cathédrales partout, enfin, en France, surtout, en Italie, en Espagne, etc. Mais est-ce que vraiment on peut affirmer que l'Europe a des racines chrétiennes ?
Alors, juste si vous permettez, je voulais juste ajouter un petit truc sur le truc, parce que sur cette histoire de la laïcité, hein, qui est une notion qui nous est chère à tous, d'abord, les Français pensent que c'est une notion française. Non, c'est une notion européenne. Il y a la même, la séparation du temporel et du spirituel, elle est la même en Allemagne, elle est la même au Portugal, elle est bon. Et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que c'est lié au christianisme. Bah, en tout cas, moi, je pense que c'est lié au christianisme occidental. C'est cette histoire que je viens de raconter là. Mais dans le monde orthodoxe, par exemple, qui est le christianisme orthodoxe, le christianisme orthodoxe, les patriarches sont toujours soumis à l'empereur. On le voit aujourd'hui en Russie. Mmh. Le patriarche de Moscou, il est soumis à Poutine. C'est Poutine qui décide. Mmh. C'est Poutine qui dit tu vas faire ça, tu vas pas faire ça, etc. Donc le christianisme, hein, c'est quand l'empereur Constantin, l'empereur romain dont j'ai parlé, quand il a dit désormais le christianisme est autorisé dans l'empire, il a organisé un système dans lequel c'était lui le patron et les patriarches de Constantinople obéissaient. Donc Et dans la plupart des autres religions, il n'y a pas de différence entre le spirituel et le temporel. Hein. Dans l'islam, le calife, celui qui dirigeait le monde islamique, il est le successeur de Mahomet, c'est-à-dire qu'il dirige le spirituel et le temporel. En Chine, c'était l'empereur qui décidait, et dessous, il y avait les prêtres qui obéissaient, alors qu'en France, en Europe, il y a cette distinction-là qui existe. Bon, maintenant, sur les racines chrétiennes de l'Europe, je pense que bien sûr, c'est évident que le christianisme est essentiel dans l'histoire européenne. Enfin, il faudrait être fou pour nier une chose pareille. Mmh. Effectivement, vous disiez les cathédrales, mais c'est pas seulement la France, l'Italie, l'Allemagne. Les cathédrales, il y en a de Uppsala, hein, les cathédrales gothiques. D'abord, il y a des cathédrales gothiques, parce que cathédrale, par définition, on apporte. Il y a des cathédrales, au Japon, hein, parce que la cathédrale, c'est l'église dans laquelle siège l'évêque. Mais en tout cas, les cathédrales gothiques, le modèle gothique, c'est quelque chose qui s'est répandu partout. Bien évidemment, le christianisme est essentiel et pendant des siècles, il a été très important, etc. Moi, je suis toujours gêné quand on dit racine, parce que racine, ça veut dire que c'est la première. Ben non, le christianisme, avant le christianisme, il y avait des religions en Europe. Il y avait des religions que les chrétiens appelaient païennes, les menhirs, les dolmens, etc. Donc, déjà, il faudrait parler de greffon chrétien. Si vous voulez, c'est une religion qui était greffée. C'est pas une religion qui est originelle. Elle vient pas de, bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que en Europe, il y a toujours eu d'autres religions que la religion chrétienne. Hein, il y a toujours eu en particulier des minorités juives, faut pas les oublier. Alors ces minorités juives, elles ont été persécutées à partir dans la plupart des grands royaumes européens à partir du 12e, 13e siècle, elles ont été persécutées, chassées, expulsées. Hein, les rois de France, les empereurs d'Allemagne, etc. expulsent les juifs, mais la présence juive, elle est là. Hein, je me souviens, j'avais un ami qui disait toujours, faut pas oublier qu'il y avait des juifs en Europe avant les chrétiens, parce qu'il y avait des juifs avec l'Empire romain et avant que l'Empire romain devienne chrétien, il y avait des juifs en Europe. Donc, les aînés, c'est eux, c'est pas les chrétiens. Bon. Et ça, c'est il y a une chose. Et puis alors, par ailleurs, des minorités musulmanes. Enfin, des minorités, c'est pas des minorités, c'est les musulmans dans toute l'Espagne pendant des siècles. Et puis dans l'est de l'Europe, dans l'Europe occidentale, avec bien plus tard, à partir du 14e siècle, l'Empire ottoman, hein, l'Empire turc, qui contrôle la moitié est de l'Europe, là, il y a des musulmans. Il y en a toujours en Bosnie, etc. C'est des musulmans qui viennent de cette histoire-là. C'est une histoire ancienne, c'est pas une histoire récente. Bon. Donc, il y a toujours des minorités. Et puis, le troisième point qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il y a une autre énorme valeur européenne par rapport aux religions qui est amenée par les Lumières. Hein, les Lumières, Voltaire, Kant, David Hume, etc. Encore un magnifique mouvement européen. Et les Lumières, elles posent une chose essentiellement européenne qui est la tolérance religieuse, qui est tu es européen et tu as le droit de croire que tu veux, tes opinions religieuses sont à toi. Ça, c'est une chose énorme, essentielle, et qui me paraît aussi une invention européenne dont on peut se...
Donc quand il y a certains partis politiques qui demandent, par exemple, que dans l'Europe, on inscrive comme dans le marbre le fait que les racines chrétiennes de l'Europe, pour vous, c'est pardon, je remploie le mot religieux, c'est une hérésie, quoi. C'est une hérésie historique, en tout cas.
Bah, en tout cas, comment dire, ça me paraîtrait créer une polémique là où il n'y a pas besoin qu'il y en ait, quoi. Hein, donc, parce qu'à ce moment-là, il faut dire, mais il y a aussi des racines des religions celtes, je ne sais pas comment elles s'appelaient, il y a aussi des racines juives, il y a aussi des racines, je vous dis, musulmanes par les côtés de l'Europe, etc. Donc, il faudrait tout. Il n'y a pas de raison d'écraser les autres.
Alors, je voudrais parler d'une autre ville, j'en parle un peu de façon intéressée personnellement, parce que j'y étais il y a quelques jours, c'est Bologne, qui est une une très belle ville. Et alors, on dit que c'est Bologne qui a la plus ancienne université d'Europe. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que quand on va dans Bologne, l'université est en plein cœur de la ville historique. C'est assez étonnant parce que c'est une ville où il y a des milliers d'étudiants qui sont là dans la ville. C'est assez étonnant. Donc ça, Bologne, parce que je sais que c'est disputé par la Sorbonne qui effectivement...
Ah non, ça c'est Bologne, c'est sûr. Hein. Oui, c'est Bologne. Alors, donc effectivement, ça c'est dans les chapitres sur le Moyen-Âge. Alors là, le chapitre sur les universités, moi je ne l'ai pas commencé à Bologne, je l'ai commencé à Salamanque, mm-hmm. parce que la première université européenne, elle a été créée à Bologne, mais très vite après, il y avait Paris, avec ce qu'on mm-hmm. appelle la Sorbonne, effectivement, puis Salamanque et Oxford, etc. Tout ça, c'est à peu près à la même époque, c'est 12e, 13e siècle. Qu'est-ce que c'est les universités? C'est que pendant très longtemps, au Moyen-Âge, hein, avant ça, il y avait ce qu'on appelait des écoles cathédrales. Ça veut dire que l'évêque, il prenait à côté de lui des jeunes clercs, hein, des jeunes qui seraient des futurs prêtres, des jeunes clercs dont il repérait, il pensait que ce serait il serait bien, c'est une espèce d'école des cadres en quelque sorte, hein. Et donc c'était l'école cathédrale qui était liée à l'évêché. Et puis c'est comme ça que se faisait l'éducation. Puis alors, dans les hautes classes, l'éducation elle était évidemment privée, hein. C'était des précepteurs qui faisaient l'éducation. Bon. Donc il y avait ces écoles cathédrales qui est là. Et puis c'est comme ça que se crée à peu près dans les grandes villes européennes se crée un espèce de foyer d'éducation. Et à Bologne, je crois que c'est au 11e siècle, c'est assez tôt. Je me souviens plus de la date, elle est en ligne, j'ai oublié.
Mais enfin, bon, peu importe. 1088.
Ah voilà, 11e siècle. Mmh. Et à Bologne, au 11e siècle, on raconte en tout cas qu'il y a quelques. On appelle ça des écoliers au Moyen-Âge. Les écoliers, c'est ce qu'on appelle nous des étudiants. Hein. Et donc, les écoliers de cette école cathédrale, ils en ont marre. Ils trouvent que l'éducation, que l'enseignement est nul, que leurs profs sont nuls, que les maîtres qu'on leur envoie ne sont pas bien du tout. Et donc, ils se cotisent et ils demandent à des maîtres réputés, des théologiens qui sont très bons, de venir enseigner à Bologne. Et c'est comme ça qu'ils vont former une espèce de. Comme une guilde, si vous voulez, comme il y a la guilde des bouchers ou la corporation des boulangers, etc. Et cette guilde. Alors, j'ai oublié le nom latin, mais enfin, en tout cas, il y a le fait qu'il y a universitas qui est dedans. C'est comme ça qu'on va créer les universités. Les universités, c'est-à-dire ces étudiants qui s'unissent pour demander à des maîtres de venir. Et c'est comme ça que vont se créer un petit peu les universités. Les universités, bientôt, il y en aura dans toutes les villes du Moyen-Âge, parce que ça correspond à l'époque où l'Europe, où il y a le ressurgissement urbain en Europe. En Europe, il y avait des grandes villes au temps de l'Empire romain. Puis après, quand il y a eu les invasions barbares, dont je disais, les invasions germaniques dont j'ai parlé tout à l'heure, la plupart des villes ont disparu. À l'époque de Charlemagne, il y avait très peu de villes. À l'époque de Charlemagne, Rome, c'était une ville de 30 000 habitants. Oui. Sous l'Empire romain, c'était 1 million d'habitants. À l'époque de Charlemagne, Rome, c'est 30 000 habitants. Bagdad, c'est 1 million d'habitants. Donc il y avait plus de villes en Europe. Et les villes, elles ont commencé à renaître. Parce qu'il y a eu un mieux économique, parce qu'il y a eu, hein, il y a eu des meilleures récoltes, une démographie plus abondante, moins de guerres, etc. Donc, il y a eu des villes qui sont reformées. Et ces villes, elles se sont reformées et elles ont été accompagnées, effectivement, de mécanismes comme celui-là. Le fait que, du coup, dans ces villes, hein, l'évêque avait plus d'argent, il pouvait avoir une meilleure école cathédrale. Donc, ça fait que les étudiants, même, ou les écoliers, que les écoliers avaient plus envie de savoir, etc. Et c'est comme ça que se sont créées ces universités, qui se sont créées un petit peu partout. Hein, donc, je vous dis, moi, je parle de celle de Salamanque. C'est merveilleux, si vous pouvez aller à Salamanque, hein, de Bordeaux, c'est pas si loin que ça, mais c'est magnifique, quoi.
En tout cas, ce qui vous permet, à travers l'exemple des universités aussi, on en a parlé un peu au tout début, de réhabiliter un peu l'image du Moyen-Âge, qui n'est pas du tout cette époque.
Ah oui, bien sûr, mais les visiteurs.
C'est toujours. Ouais. Non, mais pas que les visiteurs. Ouais. Les visiteurs, c'est un film comique, mais quand on dit toujours, on en revient à l'époque moyenâgeuse, c'est toujours présenté comme une période d'ignorance, d'inculture, de sauvagerie, de barbarie. Et c'est pas du tout.
Oui, tout à fait. Alors effectivement. Donc ces universités. Alors d'abord, il faut bien savoir que ces universités, elles sont donc liées à des villes européennes, mais elles sont fondamentalement européennes. C'est-à-dire que
c'est ça. C'est une création européenne.
Parce que le grand patron des universités, c'est le pape en fait. C'est le pape qui décide des programmes, etc. Par ailleurs, il y a la deuxième chose qui est très importante, c'est la langue commune, le latin. Mmh. Hein, tous ces gens-là parlent latin. Quand on fait les études, la maîtrise, c'est ce qui permet de devenir maître. Et la licence, licentia docendi, c'est ce qui permet d'enseigner. Quand on a la licence, hein, licentia docendi, autorisation d'enseigner en latin, quand on a la licence, ça veut dire qu'on peut aller enseigner partout. Hein, donc les maîtres ou les licenciés qui parlent le latin, ils vont d'une université à une autre université. Il n'y a pas de frontière nationale, il n'y a pas de barrière, etc. Par exemple, un des plus grands savants du Moyen-Âge, c'est saint Thomas d'Aquin. Hein, saint Thomas d'Aquin, il est né en Italie, il est d'Aquino en Italie. Et puis ensuite, il a été dans une abbaye qui était à côté de Rome, mais il a voulu rentrer chez les Dominicains. Il est rentré chez les Dominicains. Ensuite, il est venu à Paris pour étudier la théologie, parce que l'université de Paris est très, très réputée pour la théologie. Et là, il avait un maître qui s'appelait Albert Legrand. Albert Legrand, il était de Cologne. Il a suivi le maître Albert Legrand à Cologne. Et puis ensuite, il est revenu à Paris. Et ensuite, il est reparti en Italie, etc. C'est-à-dire que c'est toujours... toujours...
En fait, ils ont fait à l'avance ce que vous avez fait plus tard, quoi. Mais lui, il n'avait pas Fayard, quoi.
Non, c'était disons que c'était Erasmus avant Erasme. Et effectivement, là, quand on reprend tous les débats dans cette université, etc., c'est merveilleux, oui, hein, dans les universités du Moyen-Âge, l'appétit de savoir, de progrès, etc. La grande question, quand il y a ces universités qui se créent dans toutes ces villes européennes, il y a un appétit de savoir qui est fabuleux, et l'appétit de savoir, il vient très largement de la civilisation qui est la plus avancée à ce moment-là, aux côtés de l'Europe, c'est la civilisation arabo-musulmane. Hein, c'est les grands savants arabo-musulmans, les plus célèbres, c'est Avicenne ou Averroès. Hein, Avicenne qui est perse, mais qui était à Bagdad vers l'an à peu près 1000, et Avicenne qui est lui plus tardif du 13e siècle.
Averroès,
pardon. Et donc, ces gens-là, Avicenne, Averroès, ils ont étudié Aristote. Parce que la civilisation arabe était folle d'Aristote. La pensée grecque, c'était très important pour eux. On n'a pas cette image-là dans la tête, hein, mais c'est une réalité. Mmh. Aristote était perdu en Europe, était étudié par ces gens-là. Et donc, quand en Espagne, il y a eu, à partir de l'an 1000 à peu près, il y a eu ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire que les petits royaumes, hein, la Reconquista, je pense qu'on voit à peu près cette notion-là, c'est que les petits royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, les petits rois, se sont mis à se battre et à repousser les musulmans. Et à chaque fois qu'ils repoussaient les musulmans, donc cette Reconquista, cette reconquête de l'Espagne, à chaque fois qu'ils arrivaient dans les villes, dans les bibliothèques, ils prenaient les livres, ils les faisaient traduire, et il faisait traduire ses livres, et c'est comme ça qu'ils ont eu accès aux grands textes d'Avicenne, aux grands textes plus tard d'Averroès. C'est comme ça qu'ils ont eu accès à Aristote, et ça s'est passé dans les universités du Moyen-Âge, et tout le monde discutait d'Aristote et d'Averroès. C'était passionnant, parce que la grande question pour les théologiens du Moyen-Âge, c'était, mais la vérité, elle est dans la Bible, c'est ça la vérité, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais Aristote, il n'est pas chrétien, donc ça veut dire qu'il y a une vérité hors du christianisme. C'était très perturbant pour ça. Et il y a eu des disputes pendant des siècles, hein, des disputes théologiques pour savoir est-ce qu'il fallait accepter Aristote, refuser Aristote, accepter ce que disait Avicenne d'Aristote, etc., ou Averroès. Et celui qui a fait la synthèse de ça, c'est Thomas d'Aquin, précisément, donc le plus grand théologien du Moyen-Âge, hein, qui est un des pères de l'Église, un des docteurs de l'Église, un des grands savants de l'Église, parce que lui, il a réussi à faire la synthèse, donc il a réussi à intégrer la pensée d'Aristote dans la pensée chrétienne, et en disant, grosso modo, si je simplifie beaucoup, hein, mais en disant la philosophie, donc Aristote, est la servante de la théologie. Donc on doit apprendre la philosophie, mais la philosophie, elle doit nous apprendre à penser la théologie. Oui. C'est comme ça qu'il a fait la synthèse.
Alors, le tantôt, je voudrais qu'on aborde, on va faire un bond dans la guerre 14, de l'autre côté. Je voudrais surtout qu'on parle d'une ville qui, à mon avis, peut-être vous allez me corriger, mais qui symbolise l'Europe d'une certaine époque, c'est Vienne, quand même, parce que c'est une ville qui est assez fascinante pour cette période. C'est vraiment les croisements, là, pour le coup, de l'Europe, de multiculturel. Est-ce que c'est une ville typiquement européenne? Alors aujourd'hui, oui, parce qu'elle est au cœur de l'Europe et qu'il y a des institutions européennes qui y sont installées, mais sur le plan historique et culturel, est-ce que pour vous, Vienne, c'est vraiment, j'allais dire, la ville européenne parfaite? Peut-être plus maintenant, mais la Vienne de
si, si, ah bah, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Alors, effectivement, effectivement, on fait un grand bond dans le temps,
mais je suis désolé,
j'espère qu'on va vous n'allez pas être noyé, parce que le chapitre sur Vienne, effectivement, c'est l'époque 1900, et effectivement, donc Vienne, c'est la capitale de l'empire austro-hongrois, hein, de ces deux pays, et qui règne sur presque la moitié orientale de l'Europe. Hein. L'Empire austro-hongrois, il avait une marine, parce que toute la côte de la Croatie, c'était l'Empire austro-hongrois, ça. Et donc, effectivement, là, je fais un chapitre à Vienne, dans les cafés viennois. Hein. Les cafés viennois, en allemand, on appelle ça Kaffeekultur. C'est la culture du café. Vous savez, avec le petit plateau en argent et le bâton, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bâton sur lequel on met les journaux, vous savez, c'est merveilleux, ça. Et tout ça, c'est classé à l'UNESCO, maintenant. Il reste les cafés viennois, il reste comme ça. Et donc là je place un chapitre en 1900, parce qu'effectivement, alors là, on est bien plus loin dans l'histoire de l'Europe, mais on est donc, toutes ces nations européennes, elles se sont formées. Hein, donc là, en 1900, la carte de l'Europe, enfin, les noms qu'on voit dessus, c'est à peu près les noms qu'on a maintenant. Oui. Il y a une France, une Belgique, une Espagne, une Allemagne, etc. Ça, oui. Sauf que là, il y a ce truc qui est un peu bizarre, qui est l'Autriche-Hongrie, parce que là-dedans, il y a plein de nationalités diverses. C'était un empire qui était complètement multinational. À Vienne, il y avait un parlement qui était un parlement multinational, dans lequel le vieil empereur François-Joseph, il avait autorisé les députés à venir en costume régional, enfin en costume national plutôt, hein, en costume croate ou polonais ou ukrainien, etc., et à parler dans leur langue. Donc c'était une espèce de truc, bon,
le tour de Babel,
à côté le parlement de Strasbourg, oui, c'est une espèce de truc où, voilà, super simple, etc. Donc c'est très compliqué, très vivant, et effectivement, dans cette Vienne 1900, là, j'essaie de me servait de ça, la culture des cafés, tout ça. Puis aussi, c'est la Vienne d'un écrivain que j'adore, mais je suis Stefan Zweig. Je suis sûr que dans la salle, tout le monde adore Stefan Zweig. Bon, qui n'aime pas Stefan Zweig? C'est tellement merveilleux, tellement fin, tellement etc. Et donc, c'est la Vienne de Stefan Zweig. Là, le chapitre que j'écris là dans le truc, c'est parce que on était à la Vienne et on était dans un café qui était là, et c'était un café, donc je suis ravi de découvrir en regardant Wikipédia que c'est un café où venait Stefan Zweig. Et puis la rue qui est la rue derrière, on sort du café, et puis il y a deux rues de là, c'est là où il y avait la maison de Sigmund Freud. C'est merveilleux, quoi. Là, c'est un fantasme total, vous êtes dans un monde. Et alors, donc cette Vienne là, c'était une Vienne dans laquelle en 1900 il y avait les deux forces antagonistes de l'époque 1900. Les deux forces antagonistes en 1900, c'est d'une part le socialisme, hein, c'était le socialisme, il est très largement inventé en Europe par les Allemands et les Autrichiens. Hein, le grand leader du socialisme autrichien, il s'appelait Adler, il habitait en dessous de chez Freud d'ailleurs, et en Allemagne, c'est le pays, bon évidemment c'est le pays de Marx, mais c'est aussi le pays de toute la social-démocratie allemande, etc., donc qui était très puissante. Le parti social-démocrate autrichien, comme le parti social-démocrate allemand, il était très puissant. Ils avaient des syndicats, des chorales, des clubs de foot, des machins, c'était très, très, très important. Jaurès, il était très admiratif de ça, il aurait bien voulu avoir un parti aussi puissant en France, il avait bien du mal à le créer. Et donc, il y avait cette force-là, et en Autriche, comme partout en Europe à ce moment-là, il y avait une autre force qui était très importante et totalement antagoniste, qui est le nationalisme. C'est-à-dire que toutes ces nations européennes, elles se sont créées au 19e siècle, hein, et elles se sont créées sur des idées plutôt émancipatrices. Les nations dont je vous ai parlé tout à l'heure, la nation... Les états généraux, c'est des idées, disons, plutôt qu'on classerait à gauche, si vous voulez, enfin, en tout cas, émancipatrices. C'est on lutte contre le pouvoir des rois, on lutte. Toutes les nations au 19e siècle, elles se sont créées, les Allemands, les jeunes Allemands, ils protestaient, ils voulaient plus de vieux système impérial, ils voulaient plus de l'aristocratie, ils voulaient plus. C'était très comme ça. Et puis, quand ces nations se sont formées, à peu près à la fin du 19e siècle, et bien à la fin du 19e siècle est apparue une nouvelle idéologie en Europe, qui est le nationalisme. C'est-à-dire le nationalisme est une idéologie qui consiste à dire mon pays, ma nation est la plus importante de toutes, et elle est là pour écraser toutes les autres, la puissance de domination. Hein, il y avait du nationalisme partout, et à Vienne, il y avait ce nationalisme qui était là, alors qu'il était très compliqué dans un empire multinational, parce qu'il y en avait plein de nationalistes. Il y avait les nationalistes polonais, etc., mais il y avait aussi un nationaliste dont pan-germanique, qui pensait qu'il fallait refaire une unité avec toute l'Allemagne, tout ça. Et ce nationalisme de la fin du 19e siècle, il va de pair avec l'antisémitisme. Parce que l'idée nationaliste...
Oui, tout est lié.
Hein, bien sûr, c'est la même chose. L'idée nationaliste, à ce moment-là, elle pose que il n'y a rien de plus important que mon pays, donc il faut lutter contre les traîtres. Les traîtres, c'est ceux qui sont autour. Hein, pour un nationaliste français, l'ennemi, c'est l'Allemagne. Et le traître qui va aider l'Allemagne, c'est celui qui n'est pas vraiment comme moi, c'est le juif. Oui. Donc c'est
l'affaire Dreyfus.
Et l'affaire Dreyfus, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement. Dreyfus, c'est forcément, puisqu'il est juif, c'est forcément qu'il a donné les documents à l'Allemagne. Et il y avait cet antisémitisme exactement le même en Autriche à ce moment-là, alors qu'il y avait énormément de juifs éminents, etc. J'ai cité Sigmund Freud, j'ai cité Stefan Zweig, mais il y avait ce même antisémitisme. Et par exemple, le maire de Vienne à la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Karl Luger, c'était un maire qui était viscéralement antisémite. Et alors, le truc qui me paraît complètement dément, c'est qu'en cherchant, je cherchais des documents là-dessus, et dans un plan de Vienne, il y a toujours une rue. Karl Luger. Une statue de Karl Luger. Hitler, il trouvait que c'était un type formidable.
Alors, avant de donner la parole à la salle, le temps tourne très vite, mais c'est parce que c'est passionnant et que justement, on ne voit pas le temps passer avec vous. Est-ce que vous diriez, on n'a pas évidemment abordé les deux gars, même si par Vienne, on y arrivait, j'allais dire tranquillement, ce n'est pas vraiment le mot, avec une guerre, mais par le nationalisme, etc., le pan-germain, c'est ce qui est amené. Ensuite, les deux grandes guerres. Est-ce que vous diriez, vous, que l'idée de l'Europe, est-ce que c'est une idée récente que, voilà, maintenant, c'est l'idée de paix. Quand on dit l'Europe, ça nous a apporté la paix. Pour vous, c'est vraiment effectivement ce qui compte le plus dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand on parle de l'Europe ?
Non. Non. Non, moi, je pense plus ça. Je pense que c'était vrai. Hein, c'était vrai, ça c'était vrai après la guerre. Encore une fois, j'ai cité tout à l'heure Simone Veil, et je me souviens dans ses mémoires, qui sont très formidables, les mémoires de Simone Veil, je sais pas si vous avez lu ça, mais c'est très très bien, c'est très fluide, très 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 intéressant. Et dedans, elle raconte qu'après la guerre, quand elle est revenue des camps, c'était une jeune fille, elle était toute jeune, et il y avait grosso modo, il y avait trois options qui se posaient. Elle disait, il y avait l'option communiste après la guerre qui était très importante. Elle avait vu beaucoup de communistes dans les camps qui avaient été tout à fait héroïques, admirables et tout ça. Mais elle voyait très bien aussi ce que c'était que l'Union soviétique et tout ça. Donc elle voyait aussi le côté endoctrinement, etc. Elle voulait pas de ça. Il y avait le côté, disons, néo-nationaliste, représenté un petit peu par le parti général de Gaulle, le RPF, c'était le parti d'après la guerre. C'est-à-dire l'idée, on a gagné en 14, on a perdu en 40, on a regagné en 45, et on va recommencer. Ben, genre, on va en faire une troisième. Quoi. Il y avait cette idée-là, il y avait cette idée que l'histoire, elle était toujours scandée par les conflits franco-allemands, quoi, dans l'idée-là. Et Simone Veil, elle a eu une autre idée. Elle a dit non, il faut arrêter. Enfin, c'est pas Simone Veil qui l'a inventé. Elle avait 20 ans.
Oui, oui.
Mais avec d'autres gens, en tout cas, elle explique très bien. Il y a cette idée, ben non, pour pas recommencer ça, pour pas recommencer ce qui s'est passé, il faut qu'on s'unisse. Il faut que tous ces pays qui se sont fait la guerre s'unissent. Donc c'est cette idée de la paix, effectivement, qui est très importante, qui est très importante au début. Elle dit que Simone Veil, elle raconte dans ses mémoires là que. Après la guerre, puis même quand elle était dans les camps et tout ça, elle se souvenait d'une phrase. Je crois que c'était en 36, au moment où Hitler commençait à devenir très méchant, on voyait bien que ça allait être.
On voyait bien ses intentions.
On voyait bien ses intentions. Et son père, le père de Simone Veil, il avait dit si on n'avait pas humilié les Allemands comme on les a humiliés en 1919, au moment du traité de Versailles, on ne l'aurait pas, il serait pas là, lui. C'était très juste comme phrase. Et elle devait avoir, je sais plus en quelle année elle
était. Elle était 26, Simone.
Voilà, 26, donc elle avait 10 ans. Et elle se souvenait de cette phrase-là. Donc, après la guerre, effectivement, il y a l'idée de la paix. Mais il y a une autre idée qu'il ne faut jamais oublier, qui est très importante, qui est l'idée de se protéger du totalitarisme soviétique. C'est là où, effectivement, les Américains ont aidé l'Europe, etc. Et encore une fois, tant mieux. Pour lutter, mais donc il y a cette et eh bien je pense que aujourd'hui l'Europe elle est nécessaire aussi par cette idée de la protection. Je pense que l'idée de la paix elle est faite, mais là avec le Brexit on voit très bien que le Brexit ça déconne tout ça, mais personne pense qu'on va aller on va se mettre en guerre avec Theresa May. Elle est déjà en guerre avec son parlement.
Je pense qu'elle a suffisamment. Quand on a des problèmes intérieurs, on déclenche toujours une guerre pour refouder un peu.
Mais sauf que on a toujours des ennemis. On a toujours des ennemis ou des rivaux. Moi, je pense que l'élément fondamental du 21e siècle, c'est la puissance chinoise. C'est-à-dire que les Chinois, c'était le pays le plus important de l'histoire de l'humanité depuis. La nuit des temps jusqu'au 18e siècle, ils se sont fait tacler par l'Occident. Au 19e siècle, ils veulent prendre leur revanche, ils veulent se venger de nous, ça c'est sûr. Je le dis sans esprit nationaliste, c'est une réalité. Il y a ça, il y a la montée en puissance de l'Inde, qui a de la même manière, sa grande civilisation, sa grande culture, etc., humiliée par l'Occident. Et puis après, il y a notre nouvel ami Donald Trump qui est complètement dingue. Donc là, l'allié américain. Bon, donc il faut absolument. Et je pense que, à chaque fois que j'entends des gens râler en Europe, des gens qui sont ou en France qui sont pas contents. Je sais pas, ça me frappe tout le temps quand il y a un train qui arrive avec 5 minutes de retard, t'as des gens qui râlent, il n'y a qu'en France qu'on voit ça, tu t'en dis, mais va prendre un train en Égypte, tu verras ce que c'est. Quoi. Oui, oui. Donc, ce que je veux dire simplement par là, c'est que, effectivement, bien sûr, il y a des problèmes, bien sûr, il faut qu'on résolve, bien sûr, il y a des gens qui sont malheureux, il faut les aider, etc. Mais on est dans un petit monde, dans un petit paradis démocratique, dans lequel il y a un niveau de liberté, qui n'a jamais existé à ce point-là au monde et qui n'existe nulle part ailleurs dans le reste du monde. Voilà. Et donc, tous les gens qui sont contre l'Europe, ils sont pour Poutine. Mais c'est complètement dingue. Oui. Moi, je préfère mille fois vivre à Bruxelles que de vivre à Moscou. Enfin, et donc, je pense qu'il faut qu'on soit unis ensemble et qu'on protège nos valeurs, notre démocratie, notre manière de voir les choses, avec des gens qui pensent comme nous et qui ont la même histoire que nous, c'est-à-dire les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Belges, etc., les Polonais et tout ça.